Bonsoir à tous. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir dans le cadre du programme Urbain Nature, Savoir et Culture de la Biodiversité Urbaine, Nassima Baron pour une conférence. Alors, Nassima Baron est professeure à l'Université Gustave Eiffel. Elle est membre de l'IUF et elle fait partie du laboratoire de l'UMR Ville, Mobilité, Transport, VMT. J'oublie quelque chose dans le sigle, CVMT. Hein. Elle est spécialiste de géographie urbaine et en particulier des villes méditerranéennes. Alors c'est une géographe donc, mais qui travaille à la fois avec des urbanistes et avec des littéraires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment précieux pour nous, qui est à une interface, comme on dit maintenant, dans un programme Urbain Nature qui est un programme interdisciplinaire et pluridisciplinaire. Alors, je vous invite d'ailleurs à visiter notre site internet. Il vous suffit de taper sur Google urbanature.hypothèse.org et vous accéderez à ce site où vous pouvez déjà trouver des informations sur notre sujet, bibliographie, informations aussi sur le corpus que nous abordons et puis bien sûr un calendrier avec toutes les manifestations qui seront nombreuses cette année, colloques, journées d'études et conférences. Alors en tout cas, pour le moment, je cède la parole donc à Nassima Baron qui va nous proposer une conférence qu'elle a intitulée « Cette grande demeure où n'habite personne ».
Merci beaucoup Gisèle, bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette introduction. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité d'objectiver cette participation à un programme absolument passionnant, je crois, qui ouvre sur une diversité d'approches à la fois du vivant, de l'urbain et des mondes littéraires. Cette conférence est donc inscrite dans le cadre du programme de recherche Urbain Nature dont vient de parler Gisèle et présente l'univers des gares en tant que topos littéraire. Et cet objet singulier nous intéresse car il introduit à des expériences de l'urbanité, des expériences de l'écologie et du vivant, et à l'épreuve du mouvement et de la mobilité, qui est l'un des éléments forts du laboratoire dans lequel je travaille. Et je voudrais d'abord faire lever l'énigme de son titre qui n'est pas de moi. Mais, et c'est la seule citation qui ne sera pas lue par Gisèle directement, car elle participera à cette conférence en prêtant sa voix à quelques extraits littéraires, car cette énigme du titre, elle est dans la recherche. Et elle constitue, du point de vue du narrateur, un parallèle entre l'univers de l'automobile et l'univers du train. Et est-ce que c'est Marcel hein, qui dit ou qui pose l'idée qu'il peut sembler que mon amour pour les féeriques voyages en chemin de fer aurait dû m'empêcher de partager l'émerveillement d'Albertine devant l'automobile, qui mène, même un malade, là où il veut et empêche, comme je l'avais fait jusqu'ici, de considérer l'emplacement comme la marque individuelle, l'essence sans succès d'année des beautés inamovibles. Et sans doute, cet emplacement, l'automobile n'en faisait pas, comme jadis, le chemin de fer, quand j'étais venue de Paris à Balbec, un but soustrait aux contingences de la vie ordinaire, presque idéale au départ, et qui, le restant à l'arrivée dans cette grande demeure où n'habite personne et qui porte seulement le nom de la ville, la gare, a l'air d'en promettre enfin l'accessibilité comme elle en serait la matérialisation. Donc une idée que la gare nous rapproche de termes comme la matérialité, l'emplacement, l'accessibilité, des termes que nous utilisons encore aujourd'hui dans la recherche scientifique, pas la recherche du temps perdu, pour essayer de comprendre l'étude de la gare comme un domaine physique et matériel, une infrastructure de la modernité urbaine que l'on peut saisir par des matières, des formes, des sons, des atmosphères, mais aussi comme un univers immatériel saisi par l'expérience du temps et de la durée, par exemple lors de l'attente d'un train, et qui va être associé à des niveaux de conscience, de soi, des autres, de la ville, et donc nous introduire à d'autres écologies, peut-être plus intimes, mais qui sont aussi des manières d'éprouver peut-être l'urbanature. Avant de démarrer, cette MSH, institution qui nous occupe, m'a longtemps impressionnée, je dirais, car je suis géographe et je vais essayer de cadrer en quelques mots comment j'essaye de participer à une science plus large, celle des sciences de l'homme, et comment il n'est pas superflu peut-être d'explorer un petit peu ma manière de me relationner, moi aussi, aux emplacements, aux accessibilités et à leur matérialisation à travers, par exemple, le lieu mouvement qu'est la gare. Cette nature, vous voyez, ces natures de la gare, on peut les imaginer de manière très directe comme des objets de l'écologie, de la tropicalité, ici c'est Atocha à Madrid, ou des arbres fétiches comme au Japon, ou un figuier qui a plus de 700 ans. Ben, on a construit la gare autour parce que finalement, il avait une force et une puissance symbolique, naturelle, et faisait sens dans la nature, l'approche de la nature qui est au cœur de la culture urbaine japonaise. Mais cette manière d'être géographe, pour moi, c'est un petit peu celle-là. C'est-à-dire considérer que la géographie, c'est à l'articulation entre une science de la nature et une science de l'homme, une science des paysages et une science des acteurs urbains ou des acteurs qui organisent la vie sur Terre. C'est une science de l'espace qui a longtemps travailler dans le domaine des choses fixes et immobiles, les villes, les montagnes, et qui a fait une rupture épistémologique il y a une trentaine d'années autour de la nouvelle géographie qui est celle des flux et celle de la mobilité. Donc je me place aussi là dans une gare qui est fixité et mouvement. C'est une science de la structure et de l'essence des choses, la géologie d'une montagne, la caractérisation d'un fait démographique qui se tourne avec le paradigme écologique et de la durabilité qui traverse ma discipline vers une science de la relation, vers une science des circulations. Et dans une approche des métabolismes urbains, on trouvera aussi ce lien entre l'être et ce qui unit les choses et ce qui les fait circuler. Et enfin, c'est une science qui un rapport à l'action publique. J'ai dans cette salle voilà, des étudiants qui travaillent, qui se destinent à conseiller les acteurs urbains, par exemple. Et c'est vrai qu'être géographe, c'est être un peu saisi par ces différentes approches, au croisement des sciences de l'ingénieur et de l'action d'une part, ça serait à gauche, et des sciences de la société à droite, ou bien dans d'autres paradigmes, la sphère francophone, qui est celle de la géographie, de l'urbanisme, de cet ancien aménagement du territoire. Ça va aussi nous parler ce soir pour les gares. Et en haut, des sciences de l'innovation, de la transition, qui sont très à la mode dans notre université. Et tout ça, ça produit des types de postures qui peuvent être analytiques, qui peuvent être applicatives en bas à gauche, et bon, on applique une géographie appliquée, une géographie de conseil à l'acteur public, proche aussi d'une approche prescriptive, mais également critique. Et pour la critique, on a aussi besoin, je crois, de revenir aux représentations et aux représentations littéraires. Bon, rien de plus sur cette première entrée un petit peu épistémologique, mais pour simplement vous dire que je pense que les gares vont être peut-être un outil intéressant d'introduction dans ce lien entre l'urbain, l'urbanisme, la ville, et là où les natures, là où les écologies, pour montrer comment une diversité de courants de cette littérature contemporaine, moderne ou contemporaine en tout cas, qui existe depuis que la gare et le train existent, depuis le premier tiers du XIXe siècle, nous a introduit à des réseaux et à des topologies, une approche de la circulation des grands réseaux français, européens et mondiaux, à une approche des lieux, puisque la gare n'est pas simplement un élément du réseau ou un nœud, mais un lieu, place au sens géographique anglais, avec ses caractéristiques distinctives, uniques. Et finalement, en plus de cette approche de nœud et de cette approche de lieu, node and place, ça a été théorisé pour les gares par un grand géographe qui s'appelle Luca Bertolini, eh bien je crois qu'on peut la considérer comme un milieu. Et c'est en ce sens que l'on pourra essayer de proposer ça va être la présentation de mon travail, 5 écologies, 5 propositions de conceptualisation d'une écologie ou d'une approche écologique des gares. Alors, je vais entrer dans cette écologie des gares en essayant d'abord, rapidement, par une sorte de préambule, de vous dire ce sur quoi cette conférence ne portera pas ou ne portera pas directement. Je vais essayer de poser un premier objet pour le mettre de côté. Et après, je développerai ces 5 écologies. Alors, ce que cette conférence ne voudrait pas être, c'est un discours de plus sur le monde ferroviaire comme objet littéraire, la gare comme topos littéraire, comme palais de signes et de mots qui répond à un certain nombre d'attentes. La première attente, c'est une attente de réenchantement. J'ai trouvé cette citation placardée sur un mur de la gare du Nord. Très bien, le prix Renaudot 2017 est un beau livre. Et Olivier Guez, voilà, ça apparaissait très fortement. Et c'est donc Citrus, l'acteur qui devait produire le nouveau projet de la gare du Nord. Vous savez, le projet de la gare du Nord, un demi-milliard qui a été finalement avorté à l'été dernier, et qui, au moment de cette... parce que les transports collectifs sont dans un coma important, ils n'ont pas retrouvé après le Covid leur fréquentation, leur niveau de rentabilité, cherchent un réenchantement. Donc on a une utilisation de la littérature... Milan aimait les gares, les petites comme les grandes, les chemins de fer, il salivait devant les tableaux de départ, les villes inconnues, invitation au voyage, vitrine d'une pâtisserie. Pour Milan, la gare avait un goût d'évasion et d'aventure. Ce que je ne souhaiterais pas, c'est, dans un premier temps, développer. Beaucoup de livres existent pour nous montrer à quel point cet objet fait rêver les lecteurs et donne lieu à des célébrations plus ou moins littéraires. Je laisse cela de côté. Je laisserai aussi de côté, quoique ce serait un domaine d'étude tout à fait intéressant, le rapprochement entre l'univers de l'écrit, de la lecture, du livre, et l'univers de la gare. Pourtant, ces deux univers ont beaucoup en commun. La gare, c'est l'espace du livre, c'est l'espace de l'imprimé et du média depuis la création de cet objet urbain et des bibliothèques de gare ont apparu dès l'origine, et puis Hachette, ce grand éditeur historiquement, a fait fortune et a construit son empire éditorial dans cet espace des gares. Ce n'est pas notre affaire, mais c'est déjà un premier croisement. Un deuxième croisement, c'est que la gare, l'univers, est peut-être l'un des derniers éléments, lieu où on lit. On lit beaucoup, on lit pour attendre, on lit pour eux. Et on a d'ailleurs même la SNCF qui a commandité un éditeur qui s'appelle Short, qui ne vend que du court. Et quand on appuie sur le bouton, eh bien on peut choisir une lecture pour 5, 10 ou 15 minutes et sortir un papier qui sort comme ça pour lire une petite nouvelle. Bon. C'est l'espace de l'imprimé, c'est l'espace de la lecture, mais je ne développerai pas cet aspect. Et c'est beaucoup plus anciennement... La vitesse, vous voyez, la vitesse du train et la vitesse de la machine à écrire. La gare, c'est une machine à faire écrire. C'est une inspiration énorme parce qu'elle a des vertus ou des utilités dans le déroulement narratologique, dans la construction des discours littéraires. Ce n'est pas à moi de le dire, je ne suis pas professeur de lettres, mais assez, j'allais dire, il y a des ficelles. Et faire entrer ou faire sortir le héros d'un roman ou d'une pièce, d'une gare, ça c'est très utile. Alors on ne va pas revenir à Harry Potter et au quai 9¾, où là on entre dans l'histoire en entrant, j'allais dire, en pénétrant dans un nouvel espace. On ne vous parlerait pas d'espace liminal et de Joyce Herman qui a écrit La gare du Nord et a passé une semaine dans ce lieu dont elle a très bien compris qu'il était entre la ville et autre chose. Au moins, j'aime bien Thérèse d'Esquerou, de Mauriac, parce que ça commence dans une gare. Et elle sort de cette... L'héroïne de Mauriac, Thérèse d'Esquerou, sort de ce procès où elle a été acquittée pour l'empoisonnement de son mari. Elle revient chez elle et elle vivra un moment d'enfermement. Et le roman s'achève lorsqu'elle quitte cet espace absolument étouffant du village des Landes et qu'elle arrive à Paris, donc par une gare aussi. Donc, Ce roman n'a rien à voir avec les guerres et pourtant il montre que ce sont des espaces à partir desquels les personnages traversent, culminent, soit émotionnellement, soit traversent des espaces-temps qui permettent au déroulement narratif d'atteindre une dramatisation, un dénouement. Alors tout cela, oublions-le, car c'est les fonctions littéraires d'une gare, de l'espace ferroviaire. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. C'est donc un premier préambule qui est mis de côté. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est de vous proposer, à discuter avec vous, cinq dimensions de la gare comme milieu, de la gare comme espace dans lequel la ville, la nature, la ville et les natures se rapprochent ou se répondent. Et donc, il me semble intéressant de se rapporter peut-être à un premier texte lu par Gisèle, qui... Comment on fonctionne ? Vous voulez donner le titre et l'auteur ou je l'introduis ? Très bien. Alors, je suis allée chercher chez Jules Verne, dans le Tour du Monde en 80 jours. J'avais le choix avec Michel Strogoff, où on parle de gare pour relier Saint-Pétersbourg et la Grande Sibérie et ces mondes sauvages. Mais je me suis plutôt rapprochée, finalement, de Phileas Fogg.
Passepartout, réveillé, regardait et ne pouvait croire qu'il traversait le pays des Indous dans un train du British Peninsula Railway. Cela lui paraissait invraisemblable. Et cependant, rien de plus réel. La locomotive, dirigée par le bras d'un mécanicien anglais et chauffée de houille anglaise, lançait sa fumée sur une plantation de cotonniers, de caféiers, de girofliers, de poivriers rouges. La vapeur se contournait en spirale autour de groupes de palmiers entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques monastères abandonnés et des temples merveilleux qu'enrichissait l'inépuisable ornementation de l'architecture indienne. Puis, d'immenses étendues se dessinaient à perte de vue, de jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qui épouvantaient les hennissements du train, et enfin, les forêts, fendues par le tracé de la voie, encore hantées d'éléphants, qui, d'un pensif, regardaient passer le convoi échevelé.
Merci. Cette première entrée consiste à parler du moment ferroviaire des villes du XIXe siècle comme un moment qui est aussi marqué par l'époque coloniale, par l'expansion d'un impérialisme économique, par la constitution du chemin de fer comme une mystique de l'industrie, du colonialisme, de la civilisation, de la modernité, au sein de laquelle... La gare va être un gateway, un moyen d'ouverture à d'autres espaces lointains, exotiques, sauvages, peuplés de nature plurielle, luxuriante, habités de populations autres. Et cette gare, elle va permettre de se rapprocher de ces natures lointaines et même de les ramener au cœur des villes. Il y a un bel article de Van Reybroek qui montre cette capacité de la vapeur à avoir fait le tour du monde et à aller vers ces mondes exotiques, mais qui fait aussi un rapprochement intéressant entre la naissance du zoo dans la ville bourgeoise industrielle, dans la métropole du XIXe siècle, et l'implantation de la gare, qui nous dit un étrange rapprochement temporel. Le Liverpool-Manchester Railway, c'est 1830. Le zoo de Manchester, c'est 1836. Le Bristol-London, la ligne ouvre en 1835. Le zoo ouvre cinq ans après. Amsterdam, 1839. Le zoo et la gare ouvrent en même temps. Et tous ces binômes continuent à Bruxelles, Anvers, Gand et même à Budapest, je le dis parce que Gustave Eiffel a destiné la gare, et les structures aussi métalliques, l'architecture métallique, qui décore aussi ce zoo qui est à côté de la gare. Alors, rapprocher l'animal sauvage, le fauve qu'on ramène voilà, des déserts ou des jungles dans la ville, c'est construire un nouvel espace aux marges du centre-ville où le réseau aura finalement rapproché des éléments de la nature coloniale et mis à disposition pour une contemplation bourgeoise dans un espace civilisé où, je reprends un peu les travaux d'Éric Baratet qui nous a montré comment le zoo était une institution urbaine qui se mettait en place avec la construction d'un espace public urbain qui va être dominé par un ordre bourgeois et par une nouvelle structure, une nouvelle réalité sociale. Cette gare monde, c'est cette gare qui s'ouvre à la diversité des natures et qui en montre le caractère maîtrisé, conquis, puisqu'on a rapporté ces spécimens au plus près des villes, au cœur des villes. Mais c'est aussi la gare qui symbolise quelque chose de très moderne. C'est une toute petite planète à partir duquel le réseau aurait bouclé, dont le réseau aurait marqué la finitude. Et là, je laisse peut-être la parole à une deuxième intervention, celle autour de la gare Jonction. Une deuxième intervention autour de Phileas Fogg.
À ce point, 1382 milles avaient été faits depuis San Francisco en 3 jours et 3 nuits. 4 nuits et 4 jours, selon toute prévision, devaient suffire pour atteindre New York. Phileas Fogg se maintenait donc dans des délais réglementaires. Pendant la nuit, on laissa sur la gauche le camp Wambach. C'est à ce point que se fit l'inauguration de l'Union Pacific Railroad, 23 octobre 1867, et dont l'ingénieur en chef fut le général K.L. Dodge. Là s'arrêtèrent les 2 puissantes locomotives remorquant les 9 wagons des invités, au nombre desquels figurait le président, Mr. Thomas Durant. Là retentirent les acclamations. Là, les Sioux et les Pawnees donnèrent le spectacle d'une petite guerre indienne. Là, les feux d'artifice éclatèrent. Là, enfin, se publia, au moyen d'une petite imprimerie portative, le premier numéro du journal Railway Pioneer. Ainsi fut célébrée l'inauguration de ce grand chemin de fer, instrument de progrès et de civilisation, jeté à travers le désert et destiné à relier entre elles des villes et des cités qui n'existaient pas encore. Le sifflet de la locomotive, plus puissant que la lyre d'Amphion, allait bientôt les faire surgir du sol américain.
Vous avez la gravure de cette gare de Jonction qui a rejoint les réseaux partis de l'Est et partis des côtes Est et Ouest et qui, aux yeux de Jules Verne, marque comment un petit point va regrouper 2 réseaux. Vous voyez la locomotive qui mythiquement pousse les bisons pour arriver jusqu'à ce point de jonction et marquer donc la conquête et la maîtrise de la nature et le point à partir duquel on a bouclé les immensités et on a fait triompher la civilisation. J'en ai terminé avec cette première approche, si l'on veut, d'une écologie ou d'une domination par le réseau et par les gares de l'espace, pour vous en proposer une deuxième. Une à travers lesquelles je parlerai de la gare comme germe de ville, mais comme germe de ville qui porte aussi en lui une autre nature, une nature maîtrisée, ordonnée, jardinée, qui va être celle, par exemple, de la cité-jardin, par exemple, des lotissements. On entre dans un deuxième paradigme autour duquel il faut envisager la gare comme une graine de ville, ou comme une ville en germe, ou comme une ville en devenir, la gare comme l'objet qui va constituer l'espace urbain, qui va permettre son délinéament, sa morphologie, sa structuration, et qui va petit à petit faire sortir de terre le bâti, faire pousser les villes, lui donner forme et remplacer une sauvagerie naturelle. On est plutôt en France, donc ça sera plutôt la forêt, ça sera plutôt des lieux inhabités, pour permettre une naturalité habitable, ordonnée et maîtrisée. La première image, eh bien, elle est contemporaine du moment où Paris se lotit aux portes donc de ces gares qui poussent le long des chemins de fer suburbains. On est dans la fin du XIXe siècle et peut-être aussi plutôt dans le premier XXe siècle. C'est le moment où, par exemple, on peut lire, dans Simenon, j'avais aussi le choix, il y avait beaucoup, beaucoup de gares, mais j'ai proposé un texte de 1931 qui montre l'arrivée du commissaire Maigret à Saint-Fargeau, qui, à l'époque, est une espèce de Far West, si j'ose dire, ou de ville en devenir, de ville en gestation.
Il ignorait l'heure des trains. Comme il arrivait à la gare de Lyon, on lui dit qu'un omnibus partait à l'instant et il se mit à courir, juste le temps de se jeter dans le dernier wagon. À Saint-Fargeau, il fut le seul voyageur à descendre et il dut errer plusieurs minutes avant de dénicher un emploi. Monsieur Gallet, tout au bout de l'allée centrale du lotissement, il y avait une plaque sur la ville et il est écrit « Les Marguerites ». D'ailleurs, c'est à peu près la seule construction achevée. Pas une âme pour égayer le décor, pour renseigner le voyageur. Le lotissement n'était pas autre chose qu'une vaste forêt qui avait dû faire partie d'un domaine seigneurial. On s'était contenté d'y tracer un réseau d'allées géométriques et d'y faire courir des câbles électriques qui alimenteraient en lumière les futurs villas. En face de la gare, cependant, un square était aménagé avec vasques de mosaïques et jets d'eau. Sur une baraque en planche, on lisait « Bureau de vente, les terrains ». Et à côté, figurait un plan où ces allées désertes avaient déjà des noms d'hommes politiques et de généraux. À 2 kilomètres de la gare, pour le moins, il trouva les Marguerites, une vaste demeure de style vaguement anglais, aux tuiles rouges, à l'architecture compliquée, aux murs rustiques, séparant le jardin de ce qui, pour quelques années, était encore la forêt.
Nous voyons bien que l'époque de ce premier XXe siècle va être celle de la constitution d'une banlieue urbaine, qui va, dans certains cas, voyez, reproduire des modèles plus conceptuels de la cité-jardin qui peuvent nous venir d'Angleterre et qui ont été théorisés, ça c'est mon petit côté théorique et géographe urbaniste, par exemple Ebenezer Howard ou d'autres penseurs hygiénistes qui veulent refaire la ville selon des normes, selon des schèmes, selon une géométrie et qui considèrent pour des raisons donc de lutte contre les miasmes et de lutte contre les dangers d'un rassemblement, d'un prolétariat trop nombreux, restructurer la société avec des villes centrales, des petits villages qui seraient pensés comme des communautés équilibrées au sein d'une nature rendue maîtrisée, ordonnée. Et vous voyez ce railway municipal, intermunicipal railway, comme un ring, comme une zone qui va permettre, voilà, de structurer, de desservir, de rendre, donc de permettre des circulations tout en construisant un aménagement du territoire parfaitement organisé. D'autres visions de cette Garden City, là où vous aviez la dimension système urbain parfait. Là, vous avez la Garden City en soi, donc c'est comme si on zoomait sur l'un de ces objets, peut-être un Saint-Fargeau idéal, dans lequel vous voyez à quel point la Main Line et puis la Ring Circle Railway va contenir et structurer et empêcher de trop croître ces germes de ville qui se développent sous l'effet, évidemment, aussi d'une poussée spéculative aux abords des gares et à partir de ces nœuds du réseau. Donc, cette écologie, cette deuxième écologie, c'est penser la gare comme le principe de la croissance urbaine, mais aussi de sa limite et de sa maîtrise. Et cette idée, elle va loin, elle structure profondément la pensée des urbanistes de cette approche historique, qui a presque 100 ans aujourd'hui, à des approches beaucoup plus contemporaines. Je passe à une deuxième entrée, mais de l'approche historique dont je vous parle aux approches beaucoup plus contemporaines, par exemple du métro du Grand Paris, puisque nous arrivons sur des sujets beaucoup plus actuels, il y a la même idée que le chemin de fer et les gares vont permettre d'organiser, de restructurer, de répondre à des problèmes urbains, mais d'y répondre en pouvant façonner l'espace urbain, en orientant, en tournant la ville vers des quartiers de gare qui seraient des quartiers, j'irais une centralité parfaite, une centralité idéale, et puis qui donnerait à ces gares non seulement la capacité de produire de l'espace urbain, mais évidemment de produire de la rente immobilière. Et là, on est dans les gares comme dans cette dimension germinative d'une valeur financière, d'une valeur économique. La gare, outil de la métropolisation, je l'ai trouvé dans Aurélien Bélanger, dans Le Grand Paris, ce roman qui, en 2009, montre la manière dont un auteur, un héros, qui a été fils, voilà, d'une certaine idée de l'aménagement du territoire gaulliste, à la mode de l'ouvrier, à la mode ville nouvelle, va se mettre au service du prince, on voit bien que c'est Nicolas Sarkozy, et va lui produire une nouvelle vision, un nouvel outil, un chemin de fer qui est en cours de construction aujourd'hui dans notre capitale, qui va résoudre le problème social majeur, celui de la grande peur composée les émeutes des banlieues en 2005. C'est le moment à partir duquel M. Sarkozy a dit je dois ne plus laisser la Seine-Saint-Denis, j'allais dire, croître anarchiquement et l'intégrer dans un grand Paris, l'intégrer dans une métropole, la domestiquer par le fer. La parole à Gisèle.
La prochaine convulsion du réseau devrait agréger la métropole entière, enfin considérée comme un tout indivisible. J'en appelais ainsi à la construction d'un système de transport hybride, cadencé et sûr comme le métro, mais mise au contact du grand tailleur des zones périphériques. Aux 20 arrondissements actuels, j'allais en ajouter 100 autres, 100 arrondissements qui apporteraient cette fois non pas des numéros, mais des noms de villes, les noms de ces villes captives d'une banlieue dont le Grand Paris Express, c'était le nom que j'avais imaginé, aurait offert le rattachement définitif à la capitale de France. Le Grand Paris Express ferait magnifiquement apparaître, au-dessus de la forme confuse de l'agglomération parisienne, une ville inédite, aussi fraîche qu'elle était ancienne, une ville aussi grande que Londres et aussi vivante que New York, une ville qui venait de voir sa population multipliée par 5 et sa surface grossir instantanément et presque sans aucun travaux, jusqu'à la taille critique d'une métropole.
Taille critique d'une métropole, extension de la métropole, j'allais dire, horizontalement, sa géographie, cette deuxième écologie, c'est la gare qui a une capacité d'étendre la ville, de l'élargir. Et là, dans cette approche métropolitaine, ce n'est pas simplement de l'élargir, comme avec Simenon, mais c'est de la dominer, de maîtriser sa croissance et aussi d'organiser une croissance verticale parce que l'image de la défense est très présente dans le Grand Paris. Donc cette tour, cette métropolisation qui se marque par la conquête donc horizontale, mais aussi verticale, donc en trois dimensions, des tours ou du sous-sol. Et il y a une dimension très désillusionnée dans ce roman, mais qui nous montre en même temps que cette écologie, ce n'est pas celle de la nature et de la conquête coloniale, mon premier modèle, mais une écologie, en fait, une capacité de fécondation de l'urbain, une capacité de lui donner une poussée, de l'orienter, de structurer la mise en forme, et puis aussi de produire de la valeur, valeur esthétique, valeur financière, gare du capitalisme, qui fait travailler le spéculateur un petit peu sur le modèle veau vache cochon, expectation de la rente obtenue dans ces quartiers de gare, et qui va faire en sorte que la gare devienne un corps urbain différent, celui de la métropole, c'est-à-dire qui n'est plus celui de la communauté, comme à la Garden City, très, très homogène, mais celle au contraire de l'ouverture, du brassage, du mélange, de la mondialisation, de la globalisation. Donc on arrive sur cette deuxième poussée, cette deuxième approche, aux limites de mon troisième modèle. Mon troisième approche, c'est la gare mangeuse d'hommes. C'est la gare qui est structurée autour d'une image de la foule et du flux, de la compacité, de la diversité des hommes qui se rassemblent, qui sont rassemblés, qui sont produits par ces gares et qui font de la ville un objet qui grouille d'humains. C'est une écologie, notre écologie, au sens où cette dimension organique ou organiciste va produire des foules, une gare des foules, et va produire des goûts et des dégoûts. La massification du transport urbain, je ne fais pas une cour sur la suburbanie, le transport public de masse, mais c'est le one penny train, c'est pas récent, bien entendu, de considérer, d'avoir ce choc de la multitude à travers la gare, mais cela va produire un double regard. Le premier, il est autour, j'utilise un petit peu une image d'un rebours des Essaintes, qui dit ce brouhaha des immondes foules. Donc une toute petite dans un rebours, hein, Huysmans, j'ai deux phrases, hein, ses réflexions venaient à des Essaintes quand la brise apportait jusqu'à lui le petit sifflet de l'enfantin chemin de fer qui joue de la toupie entre Paris et Sceaux. Sa maison était située à 20 minutes environ de la station de Fontenay, mais la hauteur où elle était assise, son isolement, ne laissait pas pénétrer jusqu'à elle le brouhaha des immondes foules qu'attire invinciblement le dimanche le voisinage d'une gare. On a cette gare envahie et ces villes envahies au XIXe siècle. D'abord de ruraux, c'est l'exode rural, puis de migrants. Je pense à Zone, hein, je pense à ces migrants que Apollinaire voit dans le hall de la gare Saint-Lazare, qui partent en Argentine et qui portent un édredon rouge comme vous portez votre cœur. Il est, lui, sensible à cet envahissement de la gare, qui se nourrit de flux, qui est un lieu de passage et de brassage, et qui fournit une image en réduction du social, puisque s'y rencontre et s'y déploie dans un tout organique des précaires, des ouvriers, des bourgeois, des nobles. Donc c'est une image de la multitude et une image du mélange. Ce mélange qui va... j'allais dire peut-être dégénéré en des approches, c'est au moment des crises, c'est au moment des guerres que ces mélanges dégénèrent autour de la violence, autour de la perversion. Et nous avons peut-être là un moment difficile de lecture, mais que je laisse à Gisèle, en proposant d'introduire
Céline d'un château l'autre. Comme ça, toutes les guerres du monde, du moment que les trains de troupes stagnent, la vie sur la terre a dû commencer dans une gare, une stagnation. Vous voyez les filles rafluées, bien sûr. Elle, ma foutue Hilda, la garce. C'était que de fiévreuse puberté. Pas besoin de gamelles, costaudes fillettes, sex appeal, des salles d'attente. La perversité de voir tant de mâles arrivant d'un coup, tout suant, poilu, puant, plein les wagons. Et tout bandant leur crier « Libre, libre !» Miracle que c'était, il faut dire les choses. Que par les gardes SA, elles se soient pas trouvées happées, déshabillées et pire. L'Hilda et sa bande, servies illico, friponnes allumeuses.
C'est la gare de Sigmaringen, en 1944, c'est un moment difficile. Il y a d'autres gares dans ces lignes. Bon, déjà, le bout de la nuit, c'est pas très amusant quand il va avec sa mère au Rungis voir l'ouvrière de sa mère, qui est évidemment une vendeuse de dentelles, qui a une ouvrière au Rungis dans un de ses... chez les mal lotis. Donc il arrive dans la sauvagerie et il a déjà un voyage en train et en gare qui est un petit peu difficile. Mais alors, imaginez en 1944, c'est d'un château l'autre. Bien entendu, c'est cette retraite absolument chaotique à Sigmaringen. Et c'est ces Français qu'on ne laisse même pas monter au Leuven, au château où sont Pétain et les autres, mais qui se retrouvent à la gare, là, ce sont, j'allais dire, le dos au mur, et où on a une montée en puissance tout à fait célinienne, donc chaotique, sur le mode de la farce, sur le mode de la dénarrativation du moment historique, en un moment qui va beaucoup plus loin hein, dans cette approche, où on n'est plus dans le rapprochement des êtres, hein, mais on est dans leur mélange, dans la perversion, dans une approche parce que les gares victoriennes, ces temps-là, c'est la vertu que deviennent les femmes. Il y avait des ligues de vertu au XIXe siècle pour que les jeunes filles, voilà, soient protégées, voilà, au sein des gares. Et bien là, il nous montre la gare comme un monde. C'est un roman graphique. Hein, ça a été même La Château l'autre a été produit en roman graphique où on voit que ce mélange des corps et des êtres, il est porté à son paroxysme. Et c'est voilà une approche écologique de la gare entre le sexe, la folie, la mort, qui contraste totalement avec une deuxième perspective que je vais ouvrir maintenant, qui est celle de la gare d'où refuge. Cette gare cette demeure où n'habite personne, sauf ceux qui n'ont pas d'autre maison. Et donc, on aura une image inverse, qui est toujours dans cette écologie donc de la gare mangeuse d'hommes, mais là où les hommes veulent se laisser manger par elle, parce qu'ils sont précaires, parce qu'ils y habitent. Et c'est un petit peu la gare vue de ses habitants vulnérables. C'est un passage de Gare du Nord d'Abdelkader Djemaï, que je laisse aussi Gisèle présenter.
Dès qu'ils approchaient de la gare du Nord, ils se sentaient attirés par son atmosphère chaleureuse, ses formes féminines et par sa lumière douce qui avait la couleur d'une bonne bière. C'était un peu leur port où ils débarquaient au gré de leur humeur, de leur fantaisie. Après avoir foulé les pavés de la place Napoléon III, ils avaient en passant les grilles l'impression d'être dans le ventre d'une baleine pacifique et maternelle. N'ayant jamais eu de vraie maison à eux, ils demeuraient là, au milieu des mouvements, de la foule, du balai incessant des bagages, de l'alignement des panneaux publicitaires qui changeaient régulièrement de visage. Cette agitation les rassurait. Ils étaient bien, sous l'immense toit soutenu par d'élégants piliers en fonte ouvragée. Parfois le vol d'un pigeon, au-dessus d'un caténaire, donnait envie de partir. Avant, disait Bartolo, les trains étaient plus lents, plus lourds, et on les entendait venir de loin.
Voici une image beaucoup plus pacifique et pacifiée, et cette image quasiment biblique de Jonas, du ventre de la baleine, qui rend la gare, qui rend la convivialité entre les personnes au sein de cette foule, non pas quelque chose de l'ordre de la déviation, de la déviance, de l'excès, mais au contraire, qui en fait un écosystème, une niche dans laquelle des personnes marginales vont finalement faire leur habitat. Je passe à une quatrième écologie, une proposition d'écologie qui va un petit peu changer de registre. Donc, il n'y a pas d'ordre hein, dans ces cinq propositions, mais ces cinq propositions pour ouvrir, si vous en êtes d'accord, la discussion, c'est ce qui fait de la gare une écologie de l'intime et du sensible, et que un certain nombre de chercheurs aujourd'hui, aux franges de l'urbain, de l'architecture, du design et du cinéma, veulent considérer comme une éco-phénoménologie des ambiances et des atmosphères. Pour le dire en un mot comme un sens, Lagarde propose, et on peut l'atteindre par les littératures du surréalisme, de l'existentialisme, mais aussi du naturalisme, il y a tous les genres et toutes les approches, une manière dont Lagarde est un monde qui vous enveloppe, qui vous englobe, qui vous incorpore. Et le fait d'y passer, mais surtout le fait d'y attendre. Julien Gracq, qui est un professionnel, j'allais dire un spécialiste de cet espace de l'attente, qui habite l'attente, dans la presqu'île, il passe une journée à Savenay, en fait, à attendre une femme. Et le roman s'arrête quand le train arrive en gare, parce que toute la journée est produite autour de l'attente. Et il dit que la gare, elle est grosse de possible. C'est cette écologie-là qu'on investit à travers l'expérience authentique de la durée, par la pratique de l'attente et de la contemplation, la gare comme disposition d'âme qui peu à peu va être ressentie par celui qui n'y passe qu'un instant, comme si c'est la solitude qu'on y éprouve au milieu du bruit, de la fureur et de la foule permettait paradoxalement de donner accès à un moi profond et à une écologie donc de l'intime et de soi. Alors je voudrais dissocier là encore une fois, mes écologies sont toujours en deux temps, un premier temps qui est celui de la condensation et de l'atmosphère, car en fait c'est un paysage et un monde particulier, d'abord un monde d'essence, la gare. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais les impressionnistes ont évidemment, avec Monet au premier chef, compris à quel point la gare est une catégorie esthétique qui se construit d'ailleurs en même temps que le sublime océanique ou montagnard, mais qui produit aussi une relation au monde particulière. C'est un paysage sensuel et la vapeur, hein, bien entendu, va flouter les couleurs, les contours, donner des impressions de distance, de miroitement très, très particuliers. Et ceci produit progressivement, on passe d'une atmosphère extérieure, d'une dimension atmosphérique, vaporeuse, à une atmosphère qui va être l'atmosphère, une atmosphère littéraire, une atmosphère ressentie, une atmosphère vécue, affective. Dans cette perspective, j'aurais eu du mal à ne pas laisser place à Émile Zola, parce qu'il a écrit « La bête humaine » en se disposant donc dans un hôtel dont la fenêtre donnait sur la gare. Et dans ce premier chapitre de « La bête humaine », ce qui est intéressant, ce n'est pas les descriptions de la gare en soi, mais à quel point ces descriptions rythmées, hein, toutes les trois ou quatre pages, de la gare et de du paysage apparent de la gare s'inscrit dans une gradation affective de la crise qui va se jouer au sein de cette chambre entre Séverine et Roubaud. Et la crise qui se produit, elle est très sensible à un moment lorsque Roubaud regarde par la fenêtre.
Dès 6h15, la machine de l'express du Havre, débouchant du pont de l'Europe, fut envoyée sur son train et attelée. À cause d'un encombrement, on avait pu loger ce train sous la marquise des grandes lignes. Il attendait, en plein air, contre le quai qui se prolongeait en une sorte de jetée étroite dans les ténèbres d'un siècle d'encre où la file de quelques becs de gaz plantés le long du trottoir n'alignait que des étoiles fumeuses. Une averse venait de cesser. Il en restait un souffle d'une humidité glaciale épandue par ce vaste espace découvert qu'une brume reculait jusqu'aux petites lueurs pâlies des façades de la rue de Rome. Cela était immense et triste, noyé d'eau, çà et là piqué d'un feu sanglant, confusément peuplé de masses opaques. Les machines et les wagons solitaires, les tronçons de trains dormant sur les voies de garage, et du fond de ce lac sombre, des bruits arrivaient, des respirations géantes, haletantes de fièvre, des coups de sifflet aigus, pareils à des cris de femmes qu'on violente, des trompes lointaines, sonnant, lamentables, au milieu du grondement des rues voisines. Il y eut des ordres, à voix haute, pour qu'on ajoutât une voiture. Immobile, la machine de l'express perdait par une soupape un grand jet de vapeur qui montait.
Violent, sanglant, vous avez compris que la femme violentée, c'est au premier chef, celle qui va donc subir voilà, tous ces coups de Roubaud dans la chambre et la gare le reflète. Donc ce paysage affectif, il apparaît bien ici. Le deuxième temps de cette approche d'une écologie de l'intime, d'une écologie du sensible, il apparaît quand on passe de la notion d'atmosphère à la notion d'ambiance. Alors, c'est des mots qui peuvent quelquefois être utilisés l'un pour l'autre. Je m'appuie sur les travaux de Bruce Bégout, qui est un philosophe qui travaille beaucoup autour des lieux du mouvement, les gares, les aéroports, l'urbain, et qui nous explique que l'ambiance, ce n'est pas l'atmosphère seulement d'un lieu, mais c'est, il est phénoménologue, c'est la manifestation pré-dualiste, donc il n'y a pas de dualité sujet-objet, d'un rapport au monde, au réel, à ce qui est. C'est donc quelque chose qui, en fait, la gare, ouvre au sentiment d'exister à des modes de conscience spécifiques, à des moments existentiels où, par un phénomène assez étrange de détachement, finalement, de la quotidienneté, de séparation des contingences, on est libéré, voilà, le train part dans 20 minutes, mais on n'a rien à faire. Et à force d'avoir rien à faire, effet de l'espace, effet de l'environnement, un moment initiatique se produit, c'est-à-dire une sorte d'épiphanie qui nous fait sentir pour un instant la somme entière de la vie et qui va donner une pensée de la présence immédiate sans intermédiaire. Autour de ce moment, autour de ce régime perceptif et d'accession à un moment de grâce, la gare offre par sa matérialité ce qui nous inscrit dans le monde urbain auquel nous appartenons, à notre condition d'urbain, nous offre une espèce de bulle mentale qui va nous permettre de lâcher prise, de désadhérer, de flotter au milieu des autres et d'avoir l'immersion d'un instant, l'immersion de ce sentiment d'exister, de s'ouvrir au présent. Bon, il y a plein de... Je suis allée prendre Sartre et la nausée, mais c'est peut-être un moyen, voilà, pour sentir ces moments existentiels. Mais j'ai finalement trouvé dans Francis Ponge et dans le parti pris des choses quelque chose de peut-être encore existentiel, peut-être, mais en même temps poétique, et qui nous introduit aussi à un paysage, là encore une fois, extérieur et intérieur de la gare.
Il s'est formé, depuis un siècle, dans chaque ville ou bourg de quelque importance, et beaucoup de villages de proche en proche se sont trouvés atteints par contagion, un quartier phlegmoneux, sorte de plexus ou de nodosité tubéreuse, de ganglion pulsatile, d'oignons lacrymogènes charbonneux. Gonflés de rires et de larmes, salis de fumée, un quartier matineux où l'on ne se couche pas, où l'on passe les nuits. Un quartier quelque peu infernal où on salit son linge et mouille ses mouchoirs, où chacun ne se rend qu'en des obligations précises qui engagent tout l'homme et le plus souvent l'homme avec sa famille, ses hardes, ses bêtes, ses lares, tout son Saint-Frusquin, où les charrois de marchandises, ailleurs plutôt cachés, sont incessants sur des pavés mal entretenus. Un lieu d'effort maladroit et malheureux, où rien ne s'accomplit sans grosses difficultés de démarrage, manœuvres et parcours sans bruit de forge ou de tonnerre, raclements, arrachements, rien d'aisé, de glissant, de propre, du moins, tant que le réseau n'a pas été électrifié, où tremblent et à chaque instant menacent de s'écrouler en miettes les verrières, buffets à verreries, lavabos à faïence ruisselante et des trous malodorants, petites voitures, chasses à sandwich et garde-manger ambulants, lampisterie où se préparent, s'emmaillotent, se mouchent et se torchent dans la crasse de chiffons graisseux, les falots, les fanaux suintants, les lumignons, les clignotantes et merveilleuses étoiles multicolores, et jusqu'au bureau du chef de gare, cet irritable gamin. C'est la gare, avec ses moustaches de chat.
J'ai retenu ce texte parce que cette idée qu'elle engage tout l'homme était donc une approche à la fois de son extérieur, c'est la gare prolétaire, la gare de triage, mais c'est en même temps, par cette poésie, l'idée qu'elle est un univers et qu'elle inclut l'ensemble des hommes et d'une société. Je vais passer à ma dernière écologie. Je vais donc oublier cette phénoménologie des états de conscience particuliers et proposer celle où... plus personne n'habite, si j'ose dire. Celle qui est perdue et retrouvée, celle d'hier et d'aujourd'hui, en proposant de passer de sa perte nostalgique, qui a développé toute une littérature, et pourquoi pas une écologie de la perte, à une écologie du retour, de la ressaisie, car nous sommes aujourd'hui avec la durabilité dans l'écologie circulaire. C'est une donnée aujourd'hui, la circularité, le recyclage, la réutilisation, qui nous propose d'autres modèles à l'ère anthropocène et qui nous permet de penser cette perte et de penser cette ressaisie d'un objet qui nous vient du passé. Alors le premier texte, sachez que c'est le texte qui est tombé au bac de français du printemps dernier et qui a fait un scandale, car les lycéens ont trouvé qu'il était beaucoup trop difficile, mais je crois que c'est, bon, au-delà de ça, les lycéens trouvent toujours que le sujet du bac de français est difficile, je crois qu'il montre, par son caractère peut-être charmant et désuet, c'est une affaire de génération, il montre en tout cas, du point de vue de notre jeunesse, qu'on adhère beaucoup plus difficilement qu'avant à cette version, on va dire, pittoresque de la gare ou de la gare naturelle. C'est Valérie Larbeau.
Voyageuse, ô cosmopolite, à présent désaffectée, rangée, retirée des affaires, un peu en retrait de la voie, vieille et rose, au milieu des miracles du matin, avec ta marquise inutile, tu étends au soleil des collines ton quai vide, ce quai autrefois balayé, la robe d'air tourbillonnant de grands express, ton quai silencieux au bord d'une prairie, avec les portes toujours fermées de tes salles d'attente, dont la chaleur de l'été craquelle les volets. Ô gare, qui a vu tant d'adieux, tant de départs et tant de retours, gare, ô double porte ouverte sur l'immensité charmante de la terre, où quelque part doit se trouver la joie de Dieu, comme une chose inattendue, éblouissante. Désormais, tu reposes et tu goûtes les saisons qui reviennent, portant la brise ou le soleil, et tes pierres connaissent l'éclair froid des lézards et le chatouillement des doigts légers du vent dans l'herbe où sont les rails rouges et rugueux de rouille, et ton seul visiteur. L'ébranlement des trains ne te caresse plus. Ils passent loin de toi, sans s'arrêter sur ta pelouse, et te laissent à ta paix bucolique. Ô gare, enfin tranquille, au cœur frais de la France.
Voilà ce texte qui a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. Sachez qu'à Cahors, alors après, le chef de gare de Cahors n'a pas bien compris en mai 2021 parce que les lycéens lui ont écrit. Et en fait, c'est l'ancienne gare de Cahors qui est aujourd'hui la médiathèque de Cahors. Ça, c'est la petite histoire. Mais cette approche, c'est un peu à la René Guicadou. C'est le moment de l'enfance, c'est le moment de la nostalgie, c'est la gare de la mémoire et qui enjolive. Qui montre une mélancolie pour les Anglais appellent ça la railway nostalgia. Donc c'est un genre. Hein. Et dans la railway nostalgia, il y a la railway station nostalgia. Et cette approche un petit peu de la fragilité, de l'impermanence, de la grandeur passée et de la réalité plus modeste aujourd'hui, peut-être un petit peu à l'écart du monde qui bouge. Donc ce moment, cette écologie de la mémoire, c'est un moyen de soit de se retourner vers le passé, comme fait Valérie Larbeau, soit de revenir sur des terrains, sur des villes, dans des villes qu'on n'a pas visitées depuis longtemps. Et de se dire, est-ce la gare qui a changé? Est-ce la ville qui a changé? Est-ce moi qui ai changé dans ce moment de passage du temps? Et c'est vrai qu'à cet égard, l'un des auteurs contemporains qui jette un regard sur la France, qui montre comment elle change et comment elle change difficilement, douloureusement, c'est Houellebecq. Et donc ce n'est pas la gare et le territoire ici, c'est l'extension du domaine de la lutte. Et dès 1994, c'est un regard sur la banlieue à travers l'accès à l'une des gares.
L'autorail de Crécy-la-Chapelle avait été remplacé par un train de banlieue. Le village lui-même avait beaucoup changé. Il s'arrêta place de la gare, regarda autour de lui avec surprise. Un hypermarché casino s'était installé, avenue du Général Leclerc, à la sortie de Crécy. Partout autour de lui, il voyait des pavillons neufs, des immeubles. Cela datait de l'ouverture de Disney, lui expliqua l'employé de mairie, et surtout du prolongement du RER jusqu'à Marne-la-Vallée. Beaucoup de Parisiens avaient décidé de s'installer ici. Le prix des terres avait presque triplé, les agriculteurs avaient vendu leurs fermes. Il y avait maintenant un gymnase, une salle polyvalente, deux piscines. Quelques problèmes de délinquance, mais pas plus qu'ailleurs.
Nous passons donc de cette gare mémorielle de Valérie Larbaud, de cette gare rurale, de cette gare de la France des villages, à une gare d'un territoire qui n'est plus campagnard, qui est peut-être suburbain, qui n'est pas totalement urbain, hein, qui va être un territoire caractérisé par ce qu'il n'est plus, par ce qu'il n'est pas tout à fait encore, qui hésite, donc avec des personnages qui hésitent aussi sur les catégories, sur les chemins de vie. Et ceci nous amène petit à petit de la gare mémorielle, des temps passés, à la gare poste, post-urbaine, post-industrielle, à la gare qui montre plutôt des décalages entre le narrateur et le territoire qu'il ne reconnaît pas, entre des objets architecturaux qui ont changé, ou des personnages ou des sociétés qui ont changé, et tout cet tous ces phénomènes de désaccrochage, de discontinuité, de décalage ouvrent à un autre regard sur, que vous dire, Houellebecq, c'est un peu l'idée d'un déclin, c'est un peu l'idée d'une déchéance, d'une décrépitude. Et à travers les gares, on trouve cette réalité, l'image de ces objets oubliés, mis de côté, en ruine, apporte des éléments à des auteurs qui ont envie de parler de dégénération, de dégradation irréversible, d'une écologie de la ruine, d'une écologie de une gare encore, qui va se laisser regagner par la nature, parce qu'elle se défait. Et à travers le fait qu'elle se défait, se fragmente, s'éparpille, se désagrège, c'est le monde qui se défait, ce sont des mondes. L'ancien monde ouvrier, l'ancien monde des solidarités rurales et villageoises, l'ancien monde des catégories sociales structurées dans des espaces bien catégorisés, le rural, l'urbain, le travail, les vacances, enfin, tout ceci disparaît quand la société elle-même n'a plus lien avec le monde comme il va, parce que la globalisation, la mondialisation, la désindustrialisation, le chômage de masse ont cassé beaucoup de choses. Ainsi, un certain nombre de textes récents ont marqué ces décalages et ont montré comment on ne reconnaît plus très bien. Je cherchais en fait Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux, hein, qui montrent la manière dont cette Lorraine industrielle ne sort pas du marasme social et économique de la crise industrielle. Et l'une des expressions, c'est « rien n'avait bougé, plus rien n'était à sa place ». Le regard sur ces gares, ce monde ferroviaire momifié dans des territoires qui ont décroché économiquement, c'est au fond François Bon, dans Paysage fer, qui nous en donne aussi une image lorsqu'il trouve une carte postale, et je reviens à cette carte postale parmi tant d'autres, d'un monde ancien au sein duquel il va tenter de se relier en pensant aux habitants, en pensant aux hommes et aux femmes qui vivent peut-être encore dans ces lieux, et reconstruire une écologie de la relation au-delà de la ruine et du déclin.
S'interroger sur cela qui survit, traces et beautés, pourquoi ça vous prend, et d'autant plus que s'arrêter ou fixer est impossible. On a cherché ces 5 mois dans combien de librairies, et même sur place à Nancy, les livres qui comportaient des images de cela, des images de l'histoire des villes, des images de l'histoire des usines et des images de l'histoire des gares. Il n'y a rien. Cela apparemment n'intéresse pas la mémoire collective. La carte postale qu'un jour, comme ça, on a trouvée et payée 5 francs. Un de ces marchands de trottoir qui les classe par département. Ni gare, ni écluse, ni usine, ça ne retenait pas l'œil des photographes. Mais de Liverdun, une carte postale s'appelle le passage à niveau. On a fermé la barrière et des gens sont là. Les femmes avec châles et fichus, les hommes en casquette, les gosses en pèlerine. À gauche, la cabane du garde-barrière en planche avec des inscriptions officielles. La route n'est pas goudronnée. Derrière, il y a des maisons. Ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. Cette impression qu'on vit dans nos propres ombres. Alors eux, les gosses et les trois femmes. Partis où ? Regardent-ils encore ? Silhouettes en noir, debout au long de la barrière, quand nous en regardent encore une fois la rue vide, en perspective, entre les deux bars-restaurants, celui qui survit et celui qui s'est éteint.
Celui qui s'est éteint, donc des paysages, des territoires qui se sont éteints, et ce distinguo entre le monde d'avant, où il y avait des êtres, et ce monde d'aujourd'hui, qui est dépeuplé, et la nature qui reste, voilà, la plante verte a pris un coup, vous voyez, mais c'est le fait de révéler, de rouvrir ces mondes d'hier, qui marquent peut-être cette écologie qui cherche à peut-être à réouvrir des gares, mais à refigurer, à mettre ces espaces dans une recomposition, une requalification et aussi une refiguration. Et pour terminer sur cette écologie de la reprise, du ressaisissement, assez latourienne au fond, hein, de la circularité, je terminais en disant qu'aujourd'hui on parle beaucoup, vous voyez, de changement climatique et on parle de rafraîchissement. Alors aujourd'hui la planification c'est verdir. Alors c'est peut-être reprendre ces espaces, excusez-moi, et en faire... y remettre de la nature, par exemple, ça leur donnerait beaucoup, ça leur donnerait plus de cachet, ça permettrait de cacher la ruine et de rafraîchir au sens architectural, rafraîchir la façade, donner un coup de peinture, rafraîchir au sens climatique, refroidir, car on va vers un réchauffement climatique et après tout attendre sur un quai ou attendre dans une bonne salle d'attente, dans un monde dans lequel on aura cette présence du végétal, ça peut aussi faire sens. Mais au fond finalement, rafraîchir, pas simplement architecturalement, pas simplement bioclimatiquement, mais rafraîchir au sens informatique. Rafraîchir une page internet, c'est-à-dire réactualiser, c'est-à-dire remettre la gare dans des flux, les flux d'hommes, de richesses, de connaissances, de savoir, de la contemporanéité. C'est peut-être cette approche que cherchent aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui pensent à réaménager les gares. J'en conclus, hein. Bien entendu, les gares, combien d'écologies, je ne sais pas, j'en ai proposé 5, il y en a plusieurs. Je vous dis simplement que dans ce petit voyage autour des gares en toutes lettres et pour moi en 5 écologies, j'ai mené cet exercice d'exploration des gares par le matériau de la littérature. Je n'ai pas voulu vous développer le pouvoir créatif des gares dans le domaine de la production littéraire, mais bien plutôt l'utilisation de ces extraits littéraires pour traquer des modalités d'entrée dans des écologies de l'urbain, qui me semblaient plus proches de l'esprit du programme Urban Nature, et pour donc vous rappeler que les gares dans nos disciplines des sciences de l'ingénieur ou de l'aménagement, c'est « node and place », c'est le nœud, hein, qui va permettre la desserte du plus grand nombre de lignes, de fréquences, etc. Et puis c'est le lieu et la capacité de produire de la valeur urbaine par la production du bâti et la production des moyens qui permettent de produire le bâti, c'est-à-dire voilà, la production de valeur immobilière ou foncière. Et au-delà, cette approche écologique, elle nous ouvre à d'autres modes de connaissance des gares, qui ne sont pas exactement la railway poetry, donc ce genre hein, très, très particulier, ou railway station poetry, cette fascination pour les gares, cette, leur magie intrinsèque, mais plutôt sortir des... Enfin, j'ai essayé, hein, de ne pas rester dans des codages sémiotiques très, qui sont très structurants, mais qui sont un petit peu convenus, et montrer plutôt que les gares sont, participent de principes vivants, de principes actifs de l'urbain, et même de principes pensants la ville. Et au fond, s'il y a une approche écologique des gares, j'en terminerai ainsi, je pense que c'est une écologie politique. Ça ne peut pas rester une écologie biologique. Mais cela porte en fait un regard sur la politique des gares. Et je terminerai en citant peut-être un dernier objet littéraire. Une écologie des gares, une belle écologie politique, ce n'est pas une écologie antimoderne au sens un peu Ruskin. Ruskin disait « In a railway station, you are in a hurry, therefore miserable ». Donc, voilà, le Ruskin, c'est un peu l'approche qui rejette cette modernité de la vitesse et contre l'essence de la ville dans sa beauté monumentale. Ce n'est pas non plus la littérature très développée, notamment chez les cheminots, mais qui a toute sa présence, hein, de la gare comme la dégénérescence de la SNCF, sa dimension néolibérale qui a cassé un monde qui se tenait, un monde clos. Non, je crois plutôt que cette gare politique, c'est celle où, au fond, ceux qui en sont les usagers, par exemple les passagers, les voyageurs, ben, ils arrêtent d'être des moutons, ils arrêtent d'être un troupeau, ils arrêtent d'être la foule grouillante, ils arrêtent d'être la foule prise en otage les jours de grève, et ils se rebellent. Et c'est donc chez Thomas Compère-Morel, qui a écrit « La guerre centrale » en 2005, et qui montre comment, à l'occasion d'une énième grève des chemins de fer, les passagers, ils sont dans la gare, ils font rien, et les trains sont annulés, ils sont comme ça, ça dure des jours, alors ils dorment par terre. Et au bout d'un moment, se produit ce qui se produit, c'est-à-dire la présence en un même lieu produit un certain lien entre le sujet, et la gare, elle met en forme le social, comme une production du politique, et il va se produire à travers ces personnes qui ne se connaissaient pas, qui finissent par se parler. Une mise en forme du social, une fonction socioplastique des gares qui va produire un changement dans l'ordre des choses, dans l'ordre de l'urbain. Voilà, merci à vous. Merci.
Merci Nassima pour cette conférence qui portait à la fois sur le rôle de la gare dans l'évolution de l'urbanisme du 19e à l'époque contemporaine et sur aussi l'avenir de la gare, question politique de la gare, et en même temps sur la place de la gare dans la littérature. Et tu as bien montré à quel point cette place est importante. Il y a encore beaucoup d'autres texte, hein, comme tu le disais. Alors, je vais maintenant céder la parole à Patrick Matagne, historien des sciences et plus particulièrement historien de l'écologie, qui est le répondant de notre conférencière et qui va prendre la parole pour une quinzaine de minutes, je crois. Et ensuite, nous pourrons prendre quelques questions.
Donc, je voudrais aborder, alors, brièvement, trois points autour de la gare et du train au XIXe siècle, en restant effectivement dans le contexte français. Alors, un premier point autour de la question de la gare, vue comme une porte ouverte sur la montagne, et plus spécifiquement, une porte ouverte sur la montagne pour des naturalistes. Expliquer mon propos ensuite. Alors, le deuxième point, ce serait plutôt considérer le train comme un facteur écologique. Ce serait ma deuxième entrée. Et ma troisième entrée, c'est la gare comme élément structurant de l'urbanisme, et en particulier autour de la question de l'assainissement et du verdissement. Et donc, dans les trois cas, je me cale, j'allais dire, donc une fois encore, sur le XIXe siècle. Alors, donc, au XIXe siècle, je ne viens pas sur les causes, sur ce qu'on appelait l'alpinisme ou le pyrénéisme qui a connu une certaine vogue au XVIIIe siècle, en particulier aussi parmi les scientifiques. Au XIXe siècle, les naturalistes vont partir à la conquête des montagnes, Pyrénées-Alpes. Alors, cette conquête de la montagne est effectivement facilitée par l'extension du chemin de fer et certains disent marcher sur les pas du pyrénéiste Ramon de Carbonnière qui d'une certaine façon montre que le naturaliste, pour reprendre les propos de l'historien des Pyrénées Henri Beraldi, le naturaliste marche en montagnard, observe en savant et décrit en peintre. Donc un regard, l'approche paysagiste est essentielle pour les naturalistes du XIXe siècle, pardon, en particulier ceux qui se lancent dans la géographie botanique qui va devenir une géographie botanique écologique au cours du siècle. Alors, donc, ils reviennent, en particulier les botanistes, avec des brassées de plantes, mais aussi avec des réflexions sur les causes de la distribution géographique de ces végétaux, donc qui sont des causes à la fois latitudinales et altitudinales. Et une fois encore, donc, c'est une approche causale de la géographie botanique, je dirais, qui est ouverte grâce à leur découverte de la montagne. C'est-à-dire ils ne se limitent plus à étudier les plantes des plaines autour de leur ville, mais ils vont effectivement découvrir cet exotisme montagnard que peuvent constituer les Alpes et les Pyrénées. Et donc, d'une certaine façon, on peut dire que cette approche causale, elle est encadrée par un programme de recherche qui a été ouvert au début du 19e siècle par Alexander von Humboldt, qui est considéré comme le fondateur de la géographie botanique écologique et qui présente ce programme autour de la géographie des plantes en définissant cette dernière comme la science qui considère les végétaux sous les rapports de leur association locale dans les différents climats. Et donc là, grâce à la découverte d'une flore et d'une végétation et de paysages différents, les naturalistes vont se référer à ce programme qui va être développé tout au long du XIXe siècle. Et alors, on peut noter qu'à partir de la mi-XIXe siècle, eh bien, les carnets d'excursion, les carnets de terrain des naturalistes ne se limitent plus simplement à des informations sur les itinéraires, sur les listes d'espèces qui ont été récoltées, mais il y a des horaires de train. Donc on voit 8.22, donc on va découvrir la minute, et d'une certaine façon, le temps et la durée de l'excursion et le lieu de l'excursion va commencer à être déterminé par les gares, c'est-à-dire que on se retrouve à la gare, ceux qui viennent à pied ou en charrette parce qu'ils habitent pas très loin, ceux qui viennent par le train. Et donc l'excursion va démarrer quand seront arrivés par le train la cohorte des naturalistes qui viennent d'autres villes. Et là, donc l'excursion commence à la gare, on commence à botaniser autour de la gare et puis on fait l'itinéraire, et elle se termine à nouveau à la gare, puisque effectivement le soir ou en fin de journée, on reprend le train. Et alors, donc pour ces excursions beaucoup plus lointaines, donc le train amène les naturalistes au pied des montagnes, en particulier à la fin du siècle. Donc on peut faire Paris-Hendaye en seulement 17 heures, Paris-Grenoble encore mieux en 13h30. Donc c'est très rapide, entre guillemets, et c'est un moyen rapide. Alors, sur Nassima évoquait l'autre fois quand on discutait à propos de cette conférence, me rappelait qu'un certain Dumont d'Urville, grand naturaliste voyageur, avait réussi à échapper aux tempêtes, aux éléments déchaînés, aux naufrages, etc. Mais malheureusement est décédé avec sa femme et son fils dans une catastrophe ferroviaire le 8 mai 1842 hein, sur la ligne Paris-Versailles. Je ferme la parenthèse. Donc si le S'il est vrai que le train conduit les naturalistes et les botanistes au pied des montagnes, cela reste quand même un périple relativement exceptionnel. Et les chanceux des sociétés savantes vont faire profiter leurs collègues de leur récolte. C'est-à-dire qu'ils vont être accueillis à la gare par leurs collègues qui vont les aider à décharger les plantes qu'ils auront moissonnées, plantes qui sont ensuite distribuées à l'occasion de séances solennelles, en particulier dans des sociétés qui se créent, de sociétés pour l'échange de plantes. Et alors, les récoltes, je dirais que par rapport à nos pratiques actuelles, ça fait, pardonnez-moi l'expression, ça fait un peu peur, puisque les consignes sont données aux botanistes qui vont vers les montagnes, consignes sont données par les présidents des sociétés en question, qui leur donnent pour mission de collecter en abondance les espèces les plus rares. Puisqu'effectivement, dans les villes de plaine, ces espèces n'existent pas. Donc il faut en faire profiter tout le monde. Et donc, pour reprendre les expressions qu'on trouve dans les bulletins des sociétés savantes, eh bien, on va fourrager, on parle du botaniste fourrageur, et on va centurier. C'est-à-dire qu'on crée des parts de 100 plantes identiques. On fait des paquets qu'on distribue aux autres sociétés savantes, etc. Et donc, vous imaginez la fierté du botaniste qui revient en ville de ses excursions pyrénéennes, en l'occurrence ici, et la joie et l'accueil qui lui est fait par ses collègues pour ramener effectivement ce qu'on n'appelle pas encore biodiversité. Alors la plupart du temps, les plantes, alors ils peuvent ramener des graines pour faire des essais de culture, des expérimentations, mais la plupart du temps, les plantes sont conservées en herbier et elles sont sèches. Donc, alors, est-ce que je suis en train de dire que l'extension du réseau français favorise le pillage de la nature ? Alors non. Tout est une affaire de, je dirais que de la part des naturalistes, ce qui est plutôt en cause, c'est le comportement des naturalistes par rapport à la nature. Et j'avais noté, en étudiant en particulier les sociétés de botanistes, qu'ils étaient très loin d'être sensibles à ces problématiques que l'on qualifierait maintenant d'écologistes. Et l'historien de l'écologie, Rémi Luglia, a montré, lui, en étudiant également ceux qui s'intéressent à d'autres taxons que les taxons botanistes, qu'effectivement la sensibilisation des naturalistes à la protection de la nature n'émerge qu'en toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ça nous éloignerait un peu du sujet d'évoquer ces raisons-là. Donc le train est facilitateur de ce pillage de la nature, mais il n'en est pas la cause, bien entendu. De certaine façon, c'est un moyen efficace d'assouvir la passion pour la montagne qui est partagée effectivement par d'autres, les romanciers, les artistes, les touristes, les sportifs, en particulier les sportifs du club alpin qui se crée à la fin du 19e siècle et qui permet effectivement de faciliter les excursions. Le deuxième point concerne le train. Alors que je qualifie ici de facteur écologique. Alors, je vais vous parler des bancs d'huîtres. Donc, dans les années 1840, l'ostréiculture connaît une grave crise et les bancs d'huîtres de Rochefort, Marennes, Oléron, pardon, mais également sur les côtes anglaises et les côtes allemandes au niveau de la Baltique sont en train de s'épuiser. Et un zoologue, le professeur de zoologie Karl Möbius, est missionné par la Prusse pour rechercher les causes de l'épuisement des bancs d'huîtres du Schleswig-Holstein. Cette mission lui est donnée en 1869. Il voyage en Angleterre, il voyage en France, il va du côté d'Arcachon, de Rochefort, etc., qui connaît les mêmes problèmes que les bancs d'huîtres du Schleswig-Holstein. Et une de ses conclusions est que l'épuisement des bancs d'huîtres est causé en partie par l'extension du chemin de fer. Puisque effectivement, grâce au chemin de fer, on peut amener vers toutes les grandes capitales européennes les délicieux mollusques qui sont très à la mode. Genre en particulier, à Paris, il y a une mode parisienne, une mode bourgeoise du déjeuner à la fourchette. Déjeuner à la fourchette au cours duquel on consomme des huîtres. Et donc, on peut dire que le chemin de fer permet de répondre à cette demande accrue d'huîtres. Troisième point que je voulais aborder, la question de la gare. Alors je disais comme élément structurant de l'urbanisme autour des problématiques d'assainissement et de verdissement. Et je vais juste prendre un exemple. Alors, qui n'est pas forcément spécifique de cette ville-là, mais qui a bien sûr ses propres caractéristiques, c'est la construction de la gare de Tours dans les années 1845-1846. Alors, évidemment, ça change la donne en termes de voyage, puisque les Parisiens peuvent venir à Tours en 6 heures, alors qu'auparavant, les diligences les plus rapides mettaient 23 heures. Donc, évidemment, ça change, je dirais, la géographie, la distance de la ville par rapport à Paris avec l'arrivée du train. Alors, même si, effectivement, là aussi, comme dans d'autres villes, les Tourangeaux ont refusé que le train traverse leur ville, parce que c'est une gare butoir, hein, c'est une porte. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que l'arrivée de la gare coïncide d'une certaine façon avec un plan d'urbanisme qui a commencé à émerger dans les années 20 et auquel la gare a été adjointe, et qui aboutit dans les années 1840 à la création d'une école de médecine, d'une école de pharmacie et à la création d'un jardin botanique, alors sur un marécage qualifié de cloaque infecte. Et donc, quel est le rapport entre la création de médecine, de l'école de médecine et de pharmacie et le jardin botanique? On le voit directement, puisque les étudiants peuvent effectivement, il suffit de traverser la route pour aller effectivement sur leur terrain d'études. Mais l'autre intérêt, il est touristique, puisque effectivement, les Parisiens, les touristes parisiens affluent en nombre à Tours. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont découvrir une ville dans laquelle il n'y a plus ce cloaque infect. Ils vont découvrir un jardin botanique dans lequel on a su introduire de l'exotisme. On introduit des animaux, mais également des plantes exotiques. Et pour le dire de façon un peu triviale, les Parisiens viennent plus facilement à Tours dépenser leur argent. Donc il y a des enjeux économiques, bien sûr, donc touristiques, économiques. Et cette ville devient agréable parce qu'elle est verdie, elle est assainie de ce cloaque infect. Juste en face de la gare, enfin à 200 mètres de la gare, il y a le jardin de la préfecture. Donc la gare elle-même n'est pas verdie, mais l'environnement de la gare est verdi. D'où effectivement cette approche de la gare comme élément structurant de l'urbanisme. Voilà, donc j'avais dit que je serais bref, ce qui permet effectivement de laisser place.
Merci beaucoup, Patrick, pour cet éclairage complémentaire sur le rôle structurant, les bénéfices ou les inconvénients aussi de la gare. Alors, le temps a très, très vite passé. La FMSH ferme actuellement. Donc, nous n'allons pas pouvoir prendre beaucoup de questions, mais je pense quand même que une ou deux questions, c'est encore possible. Alors, une toute petite question, peut-être, pour commencer. Tu nous as montré un arbre près d'une gare japonaise. Donc, c'était à Tokyo, j'imagine.
Non, c'est pas à Tokyo.
C'est pas à Tokyo.
Non, c'est entre guillemets en province.
D'accord.
Alors, il y a tout un mouvement aussi pour aujourd'hui dans nos métiers de la production urbaine naturaliser les gares, je pourrais dire. Alors, c'est un mouvement qui est
qui est en plein développement, d'où l'intérêt que porte Urban Nature, enfin, que représente Urban Nature pour explorer ces approches qui peuvent être asiatiques d'un côté, occidentales de l'autre, de cette reconquête à la fois de la nature en ville et cette sorte de réinvention, de réinvestissement du rôle et de la fonction des gares dans la ville.
Est-ce que Atocha était l'une des premières ou il y avait d'autres modèles de gares comme Atocha
dans lesquelles on a eu l'idée d'implanter non seulement quelques arbres, mais un écosystème. Ah, parce qu'il y a des tortues. Hein. Oui, donc il y a vraiment. Non pas directement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans les opérations de vous savez, l'opération Saint-Lazare en France, l'opération Montparnasse en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, ça s'est encore transformé avec beaucoup de magasins. Donc l'Europe est un espace où, avec la grande vitesse, voilà, on a réinvesti et réaménagé les gares. Et en général, quand un acteur ferroviaire veut réaménager une gare, il commence par développer un jardin. Alors, il y a une belle gare, celle de Venise, où quel auteur littéraire n'est pas passé par Venise dans les 150 dernières années, dites-moi, hein, parce que je pense qu'ils y sont tous passés. Et quand la société ferroviaire italienne a voulu réaménager Venise, elle a commencé par faire un jardin partagé dans lequel tous les Vénitiens pouvaient venir planter des herbes aromatiques pour la pizza, et ça a très, très bien marché.
Alors peut-être encore une autre question quand même.
Merci pour la conférence. Qui ouvre plein de perspectives. Et je pensais, en fait, en vous entendant parler des différentes écologies au petit livre par la taille, mais au grand par l'ambition de Guattari sur les trois écologies. Et justement, c'est une façon de découper qui est très différente de celle que vous avez tentée là, parce que là, vous avez fait un découpage qui est, disons, un peu horizontal. Lui, il a un truc plus vertical, c'est-à-dire il y a les écologies, il distingue les écologies environnementales, matérielles, les écologies sociales et les écologies et l'écologie mentale. Il s'est réfléchi beaucoup à la ville, justement, comme lieu de construction d'une subjectivité. Je me demandais comment justement ces différents découpages possibles pouvaient jouer les uns par rapport aux autres, si par exemple chacune de vos écologies ont ces niveaux matériels, social et mental. Ou si c'est autrement que faudrait répartir les choses, parce qu'on voit bien comment cette distinction entre trois écologies de Guattari peut bien fonctionner pour les gares, qui sont des lieux de flux matériels, des flux humains, des flux de marchandises aussi, marchandises, mais aussi des flux matériels qui ne sont pas des marchandises involontaires.
De virus.
Des virus, voilà, des animaux, des êtres vivants qui arrivent involontairement par la gare. Écologie sociale, parce que finalement, effectivement, la gare, c'est aussi le moment de construction d'une ville libérale, où même si les distinctions de classe restent importantes, tout le monde, tous les corps sont égaux et dans un flux égal dans la gare. Voilà. Et puis écologie mentale, parce que c'est un lieu de construction. Voilà, c'est ce dont vous avez peut-être le plus parlé, hein, de construction de subjectivité urbaine, d'un espace mental. Et donc ces différents niveaux jouent les uns avec les autres. Donc voilà, ma question, peut-être un petit peu longue, était à partir de cette remarque, hein, vous distinguez différentes écologies un peu thématiques et horizontales, et comment vous articulez avec est-ce qu'on peut articuler avec cette façon plus verticale de concevoir un empilement d'écologies matérielles, sociales et mentales?
C'est une question très 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 pertinente. Je ne sais pas si c'est forcément vertical et hiérarchique. C'est aussi une dissociation. Est-elle horizontale ou verticale? Je la vois pas tellement dans l'espace ou en 3D. Mais j'entends bien. C'est que voilà, qu'il y aurait trois univers peut-être. Peut-être que je le dirais plus de ma manière comme ça. Oui, je l'entends, mais je pense que c'est très important de rester dans cette French theory alors après on aurait pu aussi se rapprocher à du Deleuze, enfin, se rapprocher à ce moment, mais je pense que 50 ans après, voilà, d'autres entrées de l'écologie sont arrivées avec la tour, par exemple. Je dis pas que c'est un modèle ou qu'il faut s'y référer, mais à donner à travers cette dimension de la circularité ou de la ce qu'il appelle Gaïa, d'autres entrées qui sont peut-être pas forcément dans la poursuite. Et donc Guattari offre un système, et j'ai
penser qu'on pouvait sortir de cette approche ternaire, mais on peut, à mon avis, réintégrer, voilà, ou raccrocher mes cinq entrées qui ne sont que cinq entrées pour montrer qu'en fait, peut-être qu'il y en a six, peut-être qu'il y en a huit ou dix ou quinze. Et c'est plutôt, vous voyez, pour sortir d'une espèce d'enfermement de mon métier autour du nœud et du réseau, du lieu et du réseau. Qui fait toute la pensée du lien entre la ville et la ville et le rail, ou la ville et l'infrastructure de réseau, et pour en proposer aussi une entrée non plus dans sa fonction, mais dans ce qu'elle dans ce qu'elle est, non pas essentiellement, il n'y a pas d'essentialisme, mais comme un espace de relationnalité au fond, la gare. Voilà.